Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service. Merci de votre fidélité à ce magazine de la vie au quotidien. Nous allons parler de l'importance des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans ce studio, le professeur Michel Bissa-Kiboul, secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance et membre de l'équipe de coordination des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Professeur Michel, bonjour.
Merci.
Bienvenue dans cette émission. Nous aurons également l'occasion d'accueillir le professeur Antoine Chimpi, coordonnateur des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Et si tout marche bien, le ministre de tutelle sera également de la partie dans cette émission, dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service. Pour participer, le standard est déjà ouvert. Composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Tati Mapoukou sur la coordination et la mise et la réalisation de cette émission. Willem Lungamba, la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama.
Radio Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
Le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire a lancé officiellement les travaux préparatoires des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire depuis le 19 août dernier. Ces assises visent la réforme du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire qui fait face à beaucoup de problèmes. Les acteurs consultés au cours des travaux préparatoires ont identifié certaines pratiques qui affectent négativement le secteur depuis des décennies. Alors, quelle est l'importance de l'organisation de ces états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire? Dans ce studio, nous recevons le professeur Michel Bissa-Kiboul. Il est membre de l'équipe de coordination des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire 2021. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
D'abord, on parle des états généraux. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par états généraux?
Ces états généraux se présentent comme des réunions de crise dans le cadre de l'enseignement supérieur et universitaire. En fait, nous sommes en train de le comparer. On se dit que le gouvernement de la République a plusieurs chantiers. Il y a eu dans le cadre de ces chantiers-là, par exemple, l'état d'urgence sanitaire pour combattre l'épidémie à coronavirus. Nous avons eu également l'état de siège dans certaines provinces de la République démocratique du Congo pour combattre l'insécurité qui était devenue chronique. Mais à côté de ces deux grands combats, nous avons également un front de la transformation de l'homme, surtout au niveau du système d'enseignement supérieur et universitaire. Donc nous disons que ces états généraux, c'est une sorte de l'état de crise ou l'état d'urgence au niveau de l'intelligence, au niveau de notre système d'enseignement supérieur et universitaire, dans le but de relever, redresser, requalifier et innover le système d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans notre pays.
Donc les états généraux permettent de faire l'évaluation, l'état des lieux, on fait un peu l'inventaire de tout ce qui se passe dans les secteurs.
Oui, oui. En fait, on fait d'abord l'état des lieux. Après cet état des lieux, nous sommes en train cette fois-ci de consulter la base. Nous consultons toutes les parties prenantes. Il s'agit des professeurs, des assistants chefs de travaux, des membres du PATO, les cadres d'entreprise, les parents, pour nous dire quelle société nous voulons demain. Quelle université nous voulons pour demain? Quelle université peut accompagner l'ambition d'un Congo développé? Et ce diagnostic que nous appelons l'autopsie se déroule jusqu'à ce jour autour de 8 axes. Nous avons des éléments qui cadrent avec la loi cadre de 2014, que les gens sont en train de se prononcer. Nous avons un diagnostic autour de nos comportements, les valeurs, les antivaleurs. Le sous-développement qui semble caractériser notre système éducatif. Nous posons également des questions autour de la cartographie des institutions d'enseignement supérieur universitaire. Il se fait qu'en 62 ans d'indépendance, on a constaté qu'on a un foisonnement des institutions d'enseignement supérieur. Il faut poser la question. Quatrième élément, c'est comment implémenter le LMD dans notre contexte. Vous savez que le LMD est légal en République démocratique du Congo depuis 2014. Le débat n'est plus de dire s'il faut oui ou non le LMD, mais le débat c'est comment implémenter notre LMD pour qu'il soit à la fois répondre aux besoins locaux, mais également s'arrimer aux standards internationaux. Quatrième élément, c'est le partenariat. Il faudrait que notre système éducatif s'inscrivent dans un partenariat à la fois avec la société pour que l'université soit une université de la société, dans la société et
au
pour
service
la société,
de la société, oui.
Mais également que ça soit une université en lien avec les standards internationaux, les partenariats avec les entreprises et l'innovation. Les domaines de l'entrepreneuriat.
Donc il y a plusieurs axes sur lesquels se fait se font les consultations. Premièrement, vous avez parlé de on évalue la loi cadre qui régit le secteur de l'enseignement.
Très bien.
Deuxièmement,
on fait le diagnostic
des valeurs, des valeurs et des antivaleurs qui
L'état des lieux.
L'état des lieux et puis c'est la cartographie.
La cartographie, les LMD, les partenariats, la numérisation, la problématique de la virtualisation de notre système, les études doctorales et de troisième cycle, mais aussi autres questions, parce que nous ne nous limitons pas à ça, nous sommes en train d'écouter la base, d'écouter ce que les Congolais veulent, ce qu'ils disent.
Bien, nous avons en ligne le professeur Antoine Chimpi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordonnateur des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous intervenez depuis la ville de Beaumont. On vient de suivre que les consultations, avant l'organisation des états généraux, il y a des consultations qui se font sur les différents domaines qui sont donnés. Alors, comment se passent ces consultations jusqu'à ces jours?
Écoutez, avant de vous répondre, je voulais vous dire que je suis avec Excellence Monsieur le Ministre qui est à côté de moi, qui vous suit également en direct, qui vous écoute, puisqu'il nous a fait l'agréable surprise de venir participer lui-même personnellement donc à l'atelier de Beaumont, et nous, que nous avons dû interrompre pour venir participer à votre émission. Les ateliers se passent bien, nous sommes aujourd'hui à l'atelier numéro 18, en ce qui concerne le plan national en présentiel, alors qu'il y a plus de 150 discussions en groupe où on répertorie les questions, les préoccupations de tous ceux qui se sentent de près ou de loin concernés par l'enseignement supérieur universitaire et dont nous répertorons leurs remarques et surtout leurs propositions qui sont colligées dans les 7 grandes commissions que le professeur Bissa vient de vous rappeler, de façon que toutes ces résolutions soient amenées aux états généraux et discutées donc à Lubumbashi pour permettre de sortir des résolutions concrètes, efficaces, qui puissent être utiles à notre pays et surtout qui permettent à nos autorités de prendre des décisions qui sont cohérentes par rapport à ce que, j'allais dire, la base, la population pense. Ça se passe bien. Nous aimerions qu'aucun Congolais, vraiment dans tous les coins du pays, ne puisse passer à côté, en tout cas que chacun puisse être au courant que les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire sont en train de se préparer pour début septembre prochain.
Bien. Et quelle est l'importance de ces assises, professeur?
L'importance, c'est que, vous savez, jusque-là, il y a eu quelques consultations. Et là, les états généraux de l'enseignement supérieur, ça fait 25 ans que ça n'a pas eu lieu. Alors que la loi nous demande de le faire tous les 5 ans. Et encore, quand j'ai dit 25 ans, c'était les états généraux de l'éducation dans lesquels il y avait donc une ligne pour l'enseignement supérieur universitaire. Si on restait dans le sens strict de l'enseignement supérieur universitaire, ça fait 50 ans. Alors que, vous savez, quel est ce chef d'entreprise, ce père de famille qui peut manager, gérer une famille, une entreprise, un institut qui ne s'arrête pas tous les ans, tous les 5 ans pour faire un bilan. Quel est l'état des lieux? Qu'est-ce que je me suis donné comme objectif? Est-ce que je les ai remplis? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment on corrige? Ben nous, ça fait 25 ans, mais ça fait également 25 ans que les problèmes se sont accumulés, puisque nous n'avons pas pris le temps d'analyser ce que nous avions proposé à l'époque, si c'était cohérent ou ça marchait. Il y a accumulation des antivaleurs, accumulation des destructions des infrastructures, accumulation des organisations au niveau des contenus de cours, et qu'on voit là, il y a un désordre accumulé qui fait qu'à un moment, il y a une volonté à la tête du pays, le chef de l'État, président de la République, le Premier ministre et les ministres du secteur, Excellence Moïse Dozan, qui ont dit stop, il faut maintenant qu'on s'arrête, que nous discutions, que nous voyons qu'est-ce qui ne va pas dans notre secteur et qu'est-ce que nous voulons. Et c'est l'essence de ces ateliers. Nous n'avons pas voulu aller à Lubumbashi entre experts, en nombre limité, encore plus limité avec la situation Covid actuellement. Donc on s'est dit, il faut qu'on prenne les bateaux de pèlerins, sillonner le pays entier, permettre à tous les enseignants, les étudiants, les chefs des travaux, le personnel administratif, technique, ouvrier, les parents, la société civile, les entreprises, que chacun disent ce qu'ils ressentent, quel est son ressenti de l'enseignement supérieur et universitaire et qu'ils donnent ses propositions, s'il y en a, des résolutions. De façon qu'il y ait une contribution nationale, voire même au-delà, puisqu'il y a une participation de la diaspora, pour qu'en arrivant à Lubumbashi, que tous les experts soient au courant de ce que pense chacun des Congolais, si j'ose dire, et que les travaux en commission puissent s'inspirer de ce que la base aura proposé. Comme ça, à la fin, on ne dira pas que c'est des résolutions issues d'un état généraux des experts. C'est des états généraux de nous tous. C'est le but même de ces ateliers, donner la parole à la base et qu'il fasse ses propositions. Et habituellement, d'ailleurs, nous, on ne répond pas. On retient, on collige leurs propositions que nous ramènerons à Lubumbashi pour des échanges.
Bien, on va accueillir un auditeur de Kanyuka, Kachai. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama. Bonjour à monsieur le professeur et à l'excellence, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire.
Bon, il n'est pas encore en ligne.
Il vous suit. Oui. Non, il vous suit. Il vous écoute.
Il nous suit depuis Boma. Quelle est votre question, Kachai?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Nous saluons l'initiative du gouvernement par l'entremise du ministre sectoriel par rapport aux états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire des travaux préparatoires lancés à Goma. Mais nous, en tant que la base, je voulais d'abord commencer par présenter quelques inquiétudes et chuter avec certaines propositions transformées en préoccupations pour que monsieur le ministre puisse un peu les rencontrer. Monsieur Jody, la RDC, notre pays, a des universités et instituts supérieurs, même en bourse, des instituts supérieurs qui ne répondent pas aux critères des institutions supérieures et universitaires qui peuvent bien organiser les enseignements. Et les cadres qui sont sortis de ces universités-là, leurs diplômes sont contestés partout. Et il n'y a pas de considération par rapport à cela. Alors, je m'en moque de tout l'enseignement du contenu qui peut être là par rapport à ce qui a été fait, proposé comme le plan d'enseignement, des programmes d'enseignement national. Monsieur Jody, le ministre sait très bien que les professeurs qui enseignent à l'université aujourd'hui sont parfois des professeurs abandonnés à leur triste sort. Le coronavirus nous a arraché beaucoup de profs et ils ont lancé même des cris, il n'y avait pas un secours pour eux. Des professeurs abandonnés, méprisés, au détriment des autres classes sociales politiques. Monsieur Jody, vous savez qu'à l'université, ce ne sont pas seulement les professeurs qui enseignent, et surtout que, vu leur âge, leur temps, ils laissent les tout aux chefs des travaux et parfois aux assistants. Mais quels assistants qui ne sont pas payés, ni le salaire, ni la prime institutionnelle, qui ne savent pas là où ils peuvent introduire la demande pour que cette demande-là soit rencontrée. Mais nous sommes dans quel pays? Bon, ça va. Deuxièmement, monsieur Jody, nous sommes en train de demander au ministre actuellement, avec les travaux préparatoires des états généraux qu'il a lancés. Excellence, monsieur le ministre, qu'il plaise à votre personne. C'est vrai que vous avez pris certaines mesures à l'entrée de vos fonctions pour que l'enseignement soit, je dirais...
Kachai, quelles sont vos propositions pour que la situation, qu'on améliore la situation des professeurs d'université?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Première proposition, que la situation salariale, sociale, économique des professeurs soit prise en compte sans condition aucune. Que les autres classes, chefs de travaux, assistants, qui sont méconnus même dans les démarches des professeurs lorsqu'ils font leur démarche à Kinshasa, que ces gens-là, assistants et chefs de travaux, soient aussi considérés. Pourquoi pour les payer, ça pose toujours des problèmes? Troisièmement, monsieur Jody, en ce qui concerne les assistants, les étudiants. Monsieur Jody, nos étudiants d'ailleurs, ils étudient dans quel établissement? Parce que le ministre là peut signer n'importe l'arrêté pour agréer n'importe quel établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Il ne connaît même pas comment cet établissement-là fonctionne, mais il donne l'agrément. Alors, c'est pourquoi nous voulons demander au ministre qu'on passe au contrôle de tous les établissements, supérieurs et universitaires. Ceux qui ne répondent pas aux critères, qu'ils soient effacés. Troisièmement, que l'enseignement soit renforcé, le degré de l'enseignement soit renforcé, surtout à l'université. Comment quelqu'un qui vient de terminer l'université n'est pas à même de défendre son diplôme au Congo? Quand il ne sait pas travailler au Congo, il ne sait pas défendre ce diplôme-là. Parfois, il a réussi parce que à la tête, il y a son frère, sa soeur, son cousin, son père, sa mère.
D'accord, merci. Merci,
alors,
on sent que vous avez...
Je voulais demander au ministre,
oui.
Alors que le ministre puisse prendre des mesures par rapport à cela, que les assistants, les chefs des travaux soient aussi considérés, et
d'accord.
Les professeurs soient bien traités.
Merci.
Je pense que l'enseignement pourra avoir un élan en République démocratique du Congo.
Merci, Kachaï. Maître Edmond Bokolo, vous êtes assistant deuxième mandat à la faculté des droits de l'Université de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, moi, je pense que j'ai une petite contribution à propos des états généraux de l'enseignement supérieur. Je pense que c'est un moment fort, un moment crucial qui permet à l'autorité de tutelle avec tous les gestionnaires de l'enseignement supérieur puissent un peu réguler ce secteur. Je pense que dans ces états généraux, je souhaite que l'accent soit mis surtout sur les réformes, les réformes liées à l'enseignement. Vous allez se rendre compte avec moi que depuis 2014, il y a eu la mise sur pied de la loi sur l'enseignement national, l'éducation nationale, la loi cadre.
La loi cadre.
Et dans cette loi, il est prévu le système LMD. Dans ces systèmes, mais depuis que cette loi a été adoptée, promulguée et publiée au journal officiel jusqu'à aujourd'hui, nous continuons avec le système ancien. Il y a certaines universités dans certains domaines qui sont autorisées, mais nous fonctionnons sous forme du système classique. Et lorsque nous allons à l'étranger pour des recherches ou pour la continuité des études, ça nous pose un peu des problèmes. Et puis l'autre problème, le problème de la masse salariale du personnel enseignant. C'est-à-dire que vous allez voir qu'au niveau de l'enseignement, nous avons par exemple la prime locale, la prime institutionnelle de l'UNESCO, ainsi que les salaires de base. Moi, je vais vous dire que si nous prenons le 100% du personnel scientifique, académique, vous allez voir que c'est plus de 20%, 30% qui sont réellement mécanisés et qui touchent le salaire de l'État. Donc la plupart d'enseignants vivent avec la prime de l'UNESCO, ce qu'on appelle la prime institutionnelle, ainsi que de petites primes au niveau des institutions. Donc cela pourra quand même permettre aux professeurs, aux assistants, aux chefs de travaux, de bien travailler s'ils sont motivés. S'ils ne sont pas motivés, ça sera un problème. Et puis l'autre problème, il faut des mesures idoines afin de pouvoir éviter certains faits, certaines antivaleurs, la corruption, la concussion, et même le point sexuellement transmissible. Donc il faut que le chef d'établissement, ainsi que le ministre dit-elle, travaille profondément en fait que l'université, en fait que les institutions universitaires du pays puissent avoir un peu une certaine valeur, même aux yeux de certaines institutions de l'Afrique, même du monde entier.
Merci, maître Edmond Mbokolo de Mbandaka. Nous avons en ligne le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Moïse Nzangui. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les préoccupations des auditeurs. Il y a Kachaï de Kanyuka qui salue l'organisation de ces états généraux, mais il déplore un peu la situation des professeurs qui sont abandonnés à leur triste sort. Et beaucoup ont été emportés par coronavirus. Les salaires ne sont pas intéressants et puis les assistants et autres ne sont pas considérés. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet?
Je veux d'abord dire que là où nous appelez, nous sommes à plein atelier à Boma, au Congo central, et les mêmes questions reviennent. Donc je viens de répondre il y a 5 minutes pratiquement à la même question. Je crois que nous sommes venus récolter les idées des Congolais pour que toutes ces questions qui sont les questions les plus récurrentes dans notre secteur soient discutées dans les états généraux. Pour ce qui concerne les conditions social des enseignants, cette question, nous l'avons mis dans notre plan d'action. Et nous avons dit que parmi les choses que nous allons faire de manière prioritaire, c'est de faire en sorte que nous puissions connaître le nombre exact de ce que nous avons comme personnel, puisqu'effectivement le nombre il n'est pas bien maîtrisé. Nous avons envoyé des équipes de contrôle dans tous les établissements du pays pour avoir des données exactes, et nous avons déjà ces données-là. La deuxième chose, c'est de savoir combien sont payés, combien ne sont pas payés. Effectivement, le constat que nous faisons maintenant, c'est que parmi les actifs que nous avons dans les établissements, en tout cas, nombreux ne sont pas payés. Ceux qui sont payés dans la prime institutionnelle, ils n'ont pas le salaire de base, où il y a une grande partie qui n'ont même pas l'aidé et qui ne vivent que de la prime institutionnelle. Je peux vous donner l'exemple de l'université de Bounia, où il n'y a que deux enseignants sur 200 qui ont leur salaire. Et donc, c'est une situation pour tous les pays qui demandent une réponse globale. Et moi, comme ministre de tutelle, ça fait 4 mois que je suis là, je viens de préparer un grand dossier pour qu'ensemble avec le ministre du budget et le ministre des finances, nous puissions trouver une solution. Puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont payés, qui ne prestent pas, alors que ceux qui prestent ne sont pas payés. Donc cette solution, on va devoir la trouver dans le cadre du gouvernement. Mm-hmm. Dans les projections de budgétisation de 2022, nous avons inséré cette question en tenant compte des corrections éventuelles qui pourront être faites. Mais il y a la question globale de la condition générale de l'enseignant qui va être discutée de fort à comble au sein des états généraux qui sont organisés à Lubumbashi.
Bien, les auditeurs sont revenus aussi sur la loi cadre de l'enseignement de 2014 qui avait institué le système LMD, mais jusqu'à ces jours, le système LMD n'est pas encore implémenté dans tous les établissements à travers la République.
Effectivement, c'est l'un des grands objectifs de ces états généraux, c'est-à-dire que nous allons réfléchir ensemble avec les enseignants, nous allons réfléchir ensemble avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire pour que nous puissions évaluer cette réforme fondamentale prévue dans notre cadre et que nous puissions prévoir l'ensemble du dispositif et réunir l'ensemble des conditions pour qu'à partir de l'année prochaine, qui est l'année prévue dans la loi comme l'année de l'achèvement de la phase expérimentale du LMD, pour que nous puissions nous rassurer qu'à partir de l'année prochaine, nous arrivons à un arrimage systématique dans toutes les facultés, dans tous les départements, puisque nous ne pouvons plus continuer avec des systèmes qui coexistent dans les mêmes pays. Donc sur ma table, il y a des diplômes de licence de 3 ans du système LMD et des diplômes de licence de 5 ans du système traditionnel. Je crois qu'à partir de l'année prochaine, nous allons devoir mettre fin à cette situation. Et c'est ça qui va être notamment le thème central des états généraux qui vont être faits à Lubumbashi, puisque on doit balayer tous les contours autour de cette question. Mais l'objectif principal du gouvernement, c'est qu'à partir de l'année prochaine, nous puissions arriver à l'achèvement de cette réforme sur les LMD.
Bien, nous avons en ligne le professeur Berke Kitumu, enseignant à l'Institut facultaire des sciences et de l'information et de l'information. Professeur Berke, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une préoccupation par rapport à la mécanisation des professeurs à thèse?
Oui, tout à fait, je dis. Vous savez, je viens d'entendre écouter le ministre qui parle des états généraux. Je pense que sérieusement, ils vont discuter à réfléchir sur le problème chez nous, c'est aux universités, n'a pas suffisamment de professeurs. Alors, pourtant, il y a de ses collègues qui sont à l'étranger, qui ont fait leur thèse, qui ont des compétences dans X ou Y domaine, mais qui ne savent pas revenir. Pourquoi ils ne savent pas revenir? Parce qu'il n'y a aucune garantie de bien-être. Moi, ça fait 18 mois que je suis revenu et je ne suis toujours pas encore payé. Vous vous rendez compte, je dis, comment est-ce que je vis? Est-ce que mon employeur, qui est l'État congolais, prend le temps de s'en soucier? Non. Je suis en train de courir par-ci et par-là. Il serait donc difficile pour nous de garantir une certaine relève tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là de mécanisation qui devient un sérieux problème. L'employé, l'enseignant lui-même doit courir. Il doit courir. chercher à négocier avec ses filles, chercher à voir certaines personnes pour pouvoir accéder à son salaire, pour pas être content. Il travaille tous les jours, il travaille chaque mois, il sait pas comment vivre. Enfin, ça, c'est un problème sérieux. Et je pense l'une des questions primordiales.
Professeur Berki, la communication n'est pas très très bonne. Je vais vous demander de vous déplacer un tout petit peu, peut-être que
oui,
ça peut s'améliorer.
Donc, voilà, je disais donc qu'il serait important que cette question de la mécanisation des enseignants soit l'une des questions principales, si pas primordiales, si peut-être même la plus essentielle. L'enseignant qui va tout le jour au travail, le docteur Attel qui est revenu de l'étranger, qui est revenu servir son pays, on le paye pas. Il y en a qui ont fait 5 ans sans être mécanisés. Comment vivent tous ces enseignants? Ça, c'est une question très importante, pertinente pour eux. Et on doit en parler.
D'accord. Monsieur le ministre, la question de la mécanisation des professeurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire au professeur Berki, Denis Fassi?
Le professeur Berki a raison. En fait, il y a un système très lourd qui s'est installé au fil des années. C'est pour cela qu'effectivement, j'ai écouté le professeur Chimbi vous dire qu'on doit s'asseoir pour essayer de trouver, de dire qu'est-ce qui ne va pas. Effectivement, le système de mécanisation des enseignants ne va pas. C'est pas un très beau système. On doit trouver un autre canal pour lequel le ministre député doit avoir la possibilité, puisque c'est lui qui gère l'ensemble du personnel, qui sait qui presse et qui ne presse pas. Il doit avoir la possibilité, la facilité de pouvoir faire aboutir des dossiers de mécanisation des enseignants. Ils sont nombreux maintenant aujourd'hui, par exemple, j'ai 850 enseignants, nouveaux docteurs, comme je les appelle, qui ne sont pas payés alors qu'ils sont en train de faire leur travail, parce que le mécanisme de mécanisation est trop lourd et il n'y a pas d'autres personnes en dehors des personnes qui doivent le faire. C'est ainsi qu'à l'issue des états généraux, nous allons devoir proposer au gouvernement un schéma pour que dans notre secteur, nous-mêmes, nous soyons les maîtres de cette question de mécanisation qui ne concerne pas seulement les nouveaux docteurs, qui concerne également les CT et qui concerne aussi les assistants. Donc je crois que c'est une question, c'est parmi les questions, effectivement, cruciales, comme il l'a dit, on va avoir un atelier spécifique sur les conditions des enseignants et la relève académique. Et cette question, je sais qu'elle va retenir l'attention de tous les possibles. C'est là qu'on a besoin d'avoir les contributions de tout le monde pour qu'ils puissent nous proposer la meilleure formule, afin que cette question soit automatiquement gérée. Qu'on ne demande pas aux gens de faire des démarches individuelles pour accéder à leur salaire. Que le ministère prenne en charge immédiatement cette question. Mais je rappelle que depuis plusieurs années, cette question a été gérée de la manière dont vous connaissez les choses et nous, on veut qu'elles soient changées.
Bien. Alors, nous avons dans ces studios le professeur Michel Bissa Kiboul, qui est membre de l'équipe de coordination des États généraux. Professeur, parlons maintenant du contenu, même de notre enseignement. Beaucoup de gens ont souvent déploré que l'enseignement est au rabais dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut pour retrouver cet enseignement élitiste dont beaucoup de personnes sont en train de rêver aujourd'hui?
Effectivement, monsieur le journaliste, vous avez bien vu, j'ai dit que le souci du gouvernement et même de ses états généraux, c'est de relever, de redresser, de requalifier et d'innover notre système de l'enseignement supérieur. Il est indiscutable et nous sommes en train de passer, le coordonnateur vous disait tout à l'heure, pour la première fois, je peux dire même à partir de 1885, ça sera la première fois qu'en République démocratique du Congo, une réforme des services publics va partir des avis, des opinions de la base. Cette fois-ci, ces états généraux sont à 100% initiés par le gouvernement de la République, par le ministère de l'enseignement supérieur universitaire. C'est des experts congolais, loin des tendances politiques, loin des couleurs provinciales et tout, qui se mettent et nous avons consulté qui? À ce jour, nous avons consulté 26 000 individus qui ont répondu à un questionnaire socio-démographique, enquête quantitative. 26 000 personnes, en virtuel et en présentiel, au Congo et dans la diaspora. Nous avons eu des 155 ou 160 discussions des groupes et focus groups. Des petits groupes de 7 à 12 personnes, parfois c'est WhatsApp, parfois des groupes homogènes. On a eu donc des avis de la fille par rapport à la problématique des points sexuellement transmissibles. On a eu les enfants des jeunes étudiants, on a eu les enfants des élèves des humanités, des enseignants des humanités, parce que le problème aussi vient de l'enseignement de la base. Nous avons eu, nous sommes, hier, on a aujourd'hui à Boma, où se trouve le ministre, on est en train d'organiser notre 18e atelier. Et ces ateliers, moi-même, je suis arrivé à Kinshasa hier, je reviens de Goma, du Nord Kivu,
okay,
où on a été avec
donc, toutes les équipes sont dispatchées à travers le pays pour organiser ces ateliers.
À travers le pays, nous avons le professeur Arthur Yenga de l'IFASIC qui est à Kisangani à ce moment, le professeur Onskan Samano Lutu et à Kikwit, nous avons le professeur Chimpi qui est à Boma, Boma et oui, qui va faire une caravane Boma, Mwanda, Matadi en remontant. Nous sommes en train d'écouter et de recevoir les avis. Nous n'avons pas encore de solution. Mais tout ce que les gens nous disent, même tout ce que les auditeurs de la Radio Capi disent aujourd'hui, nous faisons des synthèses, nous allons amener à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, les experts ont le devoir de couler maintenant sous une forme intelligente ce que la base dit. Et ensemble, parce que, monsieur Jean, pour répondre à votre question de manière un peu précise, nous avons trois niveaux de responsabilité. Nous avons le niveau de la volonté politique. Ça, c'est le gouvernement de la République. Tout le monde dit qu'il faut augmenter le budget alloué au secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique. Nous avons le niveau de la responsabilité des gouvernants des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Parce que qui devient recteur, qui devient DG, quelle est leur responsabilité? Et puis nous avons le niveau de la volonté de gouverner. Parce que à chaque niveau, il y a des responsabilités pour qu'ensemble nous allons. Donc la qualité de gouvernant et la qualité de gouverner sont les deux faces d'une même pièce pour que notre système d'enseignement supérieur et universitaire soit effectivement une machine de la production du développement du Congo.
Et à l'époque, on nous disait souvent que l'université n'est pas faite pour tout le monde. C'est pour l'élite. Les autres peuvent faire des formations à gauche, à droite, mais l'université, c'est pas pour tout le monde.
Justement, les États généraux doivent répondre à cette question. Il faut choisir entre un enseignement des cadres et un enseignement des masses. Mais ça aussi, c'est la plupart de nos intervenants insistent sur les critères d'admission à l'université. Nous devons regarder qui vient à l'université et dans la mesure du possible rétablir la place des institutions ou de l'enseignement technique. IFA en Gambie, les ISDER, nous sommes un pays à vocation agricole. Et donc, c'est au niveau de l'inscription, toutes ces questions-là seront déposées sur la table des États généraux en termes de commissions qui sont mises en place et à la fin de cela, si la volonté politique des gouvernants politiques, la volonté politique des gouvernants des institutions et la volonté des animateurs, évidemment, dans tout ça,
oui,
les gens insistent sur la place de la sanction, de l'inspection à l'université, les moyens doivent venir, les contrôles doivent venir, la sanction doit être là. Et je vous assure, messieurs les journalistes, il semblerait que Dieu aime les chiffres. Dieu aime les calculs.
Ah bon?
Et l'université, c'est, Dieu utilise puissamment les universitaires que tout autre être humain dans ce monde. Toutes les grandes inventions, les grands miracles, pour parler comme les pasteurs, viennent des universitaires. C'est les universitaires qui ont créé le téléphone, qui ont créé la radio. Aujourd'hui, on peut parler à 2 345 000 km². Et donc, il faut que notre université aussi redevienne une université des miracles. Et les États
au service du développement de la société.
Au service du développement de la société.
D'accord.
Les collègues ont posé la problématique des diplômes.
Je reviens justement à vous, professeur. Le temps d'accorder la parole au ministre Moyindo Zangi. Monsieur le ministre, avant de vous libérer, il y a une question par rapport aux établissements d'enseignement supérieur universitaire qui foisonnent à travers le pays, des établissements non viables, il n'y a même pas des professeurs, on compte sur les professeurs visiteurs, ce sont les assistants qui donnent cours là-bas, il y a aussi la politisation des non-universités. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets? Monsieur le ministre?
Allô,
oui, allez-y.
Je dis que cette question-là, effectivement, elle va être parmi les questions qui vont être discutées. Comme vous le savez, je vous ai dit qu'on a envoyé des missions de viabilité et de lutte organisationnelle dans l'ensemble de l'établissement du pays. Et donc, nous avons les rapports de fonctionnement de tous les établissements. Nous savons dans quelles conditions ils évoluent. Nous allons présenter ces rapports dans les états généraux et ensemble avec tous les intervenants, on va devoir trouver des solutions puisque nous envisageons fermer ceux qui ne sont pas viables et renforcer les conditions de viabilité pour celles qui le sont. Donc, cette question, je crois qu'elle ne fait l'objet d'aucun doute puisque à l'unanimité, les gens qui sont consultés sont d'accord que l'institution peut devenir boutique, les gabelots qui pullulent dans les milieux alors qu'ils n'ont pas les conditions nécessaires pour assurer la qualité de l'enseignement, nous devons devoir les fermer. Et les deux, nous sommes allés trop loin. Nous avons fait aussi la viabilité des facultés. Ça veut dire que même pour les établissements viables, nous allons devoir intégrer des facultés qui ne les sont pas au sein des établissements et les fermer. Et l'accent particulier sera mis sur les facultés de médecine et de pharmacie. Puisque ces deux facultés-là sont tellement vitales, les gens qui sont formés déjà doivent manipuler des hommes ou des produits consommés par les hommes. Nous estimons que sur ces deux plats-là, on doit mettre toute la rigueur pour que on sera sûr qu'ils sont formés dans les bonnes conditions.
Monsieur le ministre, comment comptez-vous faire pour dépolitiser l'enseignement universitaire? Aujourd'hui, chaque député veut avoir une université dans son village. Il veut avoir un institut supérieur pour que sa base, pour être apprécié par la base. Et puis, la politique est entrée dans nos universités.
Effectivement, la seule condition, le seul moyen de mettre fin à cette dépolitisation, c'est d'appliquer les critères objectifs pour fermer ceux qui ne sont pas viables et laisser fonctionner ceux qui sont viables. Il y a des endroits où les établissements sont vraiment une nécessité pour la population. Il y a d'autres endroits où les gens les ont créés juste pour des raisons politiques ou pour des raisons de visibilité, et c'est ça qui cause problème. Pour le reste, on va devoir évaluer la proposition de la loi qui concerne l'élection des recteurs. Cette question, elle est capitale aussi pour la dépolitisation des universités. Ensemble avec les acteurs, nous allons évaluer la situation et trouver une formule qui nous permette de désigner des recteurs ou des autorités académiques qui ne sont pas seulement présentés pour des raisons politiques. Donc, ça fait partie aussi du processus de dépolitisation de l'université.
Bien, monsieur le ministre Moïse Ozangui, merci. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bien, je rappelle qu'il est ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. On va accueillir un auditeur, Richard Kayombo de Colésie. Bonjour. Richard Kayombo, bonjour. Oui, on vous écoute, Richard.
Oui, je suis très ravi de cette émission. Et je salue tout de même aussi tous les invités et aussi tous les auditeurs de la Radio Capi. J'ai des occupations et aussi des suggestions.
Lesquelles?
Bon, la première des choses, aujourd'hui, le niveau des universitaires, donc des étudiants, de ceux-là qui terminent à l'université, nous constatons qu'ils ne sont presque pas à la hauteur de se défendre sur le terrain. Quand vous prenez quelqu'un qui termine, par exemple, dans le domaine de l'agronomie, ces gens, au lieu, par exemple, de se lancer à faire des recherches, à utiliser la terre, mais ils ne sont là que pour quémander dans des entreprises, donc des demandes d'emploi, ça et là. Mais quand vous prenez même leurs demandes, vous lisez ça, vous parcourez, vous sentez que c'est presque un primérien qui écrit cela. Alors, je pense que ces états généraux ici ont leur raison d'être, mais à part cela, on doit aussi voir les niveaux des encadreurs aussi. Est-ce tous les encadreurs qui sont à l'université, les assistants qui donnent cours, parce qu'il y a certaines universités, certains centres universitaires où il n'y a presque pas de professeurs qui y passent. Il y a des chargés de cours, il y a des assistants qui animent de G1 jusqu'à G3, il n'y a presque pas de bons encadreurs. Vous sentez que même quelqu'un qui a terminé, il est en train de donner cours, mais vous sentez qu'il n'est pas vraiment à la hauteur. Qu'est-ce qui est proposé pour que ce problème puisse prendre fin et aussi pour que les étudiants arrivent non seulement à chercher de l'emploi, mais à se mettre à la recherche, à faire des découvertes, parce que nous avons des maladies qui apparaissent de temps en temps. Je donne l'exemple de la province du Lualaba, dans les territoires de Sandoa, les territoires de Mouchacha, il y a la pourriture des manioc. Avec cette pourriture des manioc, ce sont les universitaires qui doivent trouver des solutions, qui doivent faire des recherches. Mais aujourd'hui, je vous assure que la population est presque dans l'impasse. Ils ne savent pas à quel sens se vouer, quels sont les...
Parce qu'il n'y a plus assez de recherches par rapport à toutes ces maladies qui détruisent les cultures. Merci Richard Kayombo. Simon, vous êtes à Kananga, bonjour. Simon de Kananga, bonjour. Simon n'est pas là. Bien, professeur Michel, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur Richard de Kayombo de Kolwezi?
Merci beaucoup, monsieur Richard de Kayombo. Il a raison dans tout ce qu'il a dit. C'est des choses que nous avons écoutées, ci et là, dans
les étudiants ne peuvent plus défendre leur diplôme.
Nous allons partout. C'est pour cette raison, justement, que les gens ont dit qu'il faut que notre LMD soit orienté vers le terrain, vers les besoins spécifiques. Nous avons des provinces, nous avons des provinces avec certaines vocations. La province du Nord Kivu, par exemple, a vocation touristique.
Professeur, on va accueillir Simon de Kananga. Bonjour Simon. Simon, vous êtes là?
Allô?
Oui, on vous écoute.
Oh là là. Je vous entends pas bien.
Mais nous, on vous entend très bien, Simon. Bon, peut-être qu'il y a des soucis au niveau de la liaison téléphonique. Oui, allez-y, professeur.
Oui, je disais que M. Richard a dit à partir de Kolwezi, c'est en tout cas ce que la majorité des participants à nos ateliers, à nos focus group, à nos discussions group ont dit.
Vous avez dit le Nord Kivu est à vocation
touristique. Nous avons des provinces, nous avons des besoins locaux. Il faut que notre système éducatif, beaucoup de participants recommandent que nous puissions également créer des filières adaptées à un certain nombre de besoins locaux. Nous sommes un pays de diamants, il faut que nous ayons une faculté de raffinerie des diamants. Nous sommes un pays de cuivre,
nous avons le cobalt.
Oui. Nous avons la chikwang. Donc, aux états généraux, toutes ces questions seront déposées sur la table des experts et nous espérons que cette fois-ci, avec la volonté politique que nous semblons voir dans le chef de l'actuel ministre de l'enseignement supérieur universitaire et de son gouvernement, nous pensons que l'espoir est permis.
Bien. Professeur Antoine Chimpi, vous êtes encore en ligne? Professeur Antoine, vous êtes là? Voilà, on me fait signe qu'il n'est plus en ligne. Tati Mapoukou va certainement le rappeler. Alors, revenons sur cette question, la recherche scientifique. Aujourd'hui, la recherche scientifique en RDC fait figure des parents pauvres. Est-ce que c'est on va également en parler au cours de ces états généraux?
Justement, la majorité de participants à nos séances de récolte et de sensibilisation ont insisté sur l'approche globale et systémique. Il faudrait que les états généraux d'enseignement supérieur puisse également tenir compte de la recherche scientifique, mais également de l'éducation de base, enseignement primaire, secondaire, technique. Donc la question de la recherche scientifique nous conduit aussi autour des questions de partenariat. C'est pour cette raison-là que beaucoup de participants exigent ou interrogent la problématique de la responsabilité éducative des entreprises. Il faudrait que ces entreprises qui reçoivent des stagiaires et également le temps de demander, de s'exprimer pour dire quel type de produit ils attendent de l'université. Donc, toutes ces questions, en tout cas, aucune question ne va échapper à la table des états généraux d'enseignement supérieur universitaire.
D'accord. On me fait signe que professeur Chimpi est de nouveau en ligne. Professeur Antoine Chimpi, vous êtes là?
Oui, je suis là. Mille excuses.
D'accord.
Je suis là.
D'accord. Parlez-nous de ces états généraux. Comment ça va se passer? Combien de participants sont attendus et ils viendront de quelle partie du pays? Est-ce que certains viendront aussi de l'étranger? Et les travaux vont durer combien de jours?
Alors, donc, les travaux vont durer 5 jours. Alors, on va vous préciser les dates parce qu'on a une précision aujourd'hui attendue, mais ça va durer 5 jours. Oui, il y aura, initialement, on allait sur 500 participants qu'on a dû réduire pour des raisons de conditions sanitaires Covid. Donc, on est ramené autour de 300 participants. Troisième question, oui, il y aura majoritairement des participants venant des 4 coins du pays, en essayant de garder un équilibre au niveau de toutes les provinces, des institutions, des filières, qui est une représentativité. Quatrième ou cinquième question, il y aura des intervenants venant de l'étranger, bien entendu de l'extérieur. Mais même sans venir physiquement, nous sommes en train de voir les modalités techniques pour que certains experts d'entre nous qui sont à l'extérieur, à l'étranger, puissent intervenir par toutes les possibilités technologiques qui existent aujourd'hui, notamment un collègue qui a fait ses contributions à l'extérieur. Ce que je répète, c'est que les ateliers, les consultations qui sont faites actuellement ne concernent pas que le pays. Professeur Biss l'a rappelé, il y a des questionnaires, il y a des contributions en ligne, mais également des collègues qui travaillent à distance qui nous envoient leurs contributions. Il y a un comité scientifique qui s'imprègne donc de leurs propositions, de leurs orientations, qui seront donc à discuter au niveau de nos états généraux. Voilà, on va essayer de faire en sorte que ça soit un panel le plus largement représenté, mais en tenant compte de ce qui s'était passé auparavant, c'est-à-dire maintenant, de façon que nous puissions être le plus large possible. Il y a sans doute beaucoup plus dans plusieurs têtes que dans une seule tête. Et c'est un peu le leitmotiv de notre coordination pour qu'on ait le maximum d'idées d'innovation, qu'on puisse, à la sortie de tout ça, trouver des résolutions fortes qui puissent aider notre pays à décoller. Mmh. Parce que sans enseignement supérieur universitaire fort, le pays resterait fragile dans ce cas-là. Et nous, on refuse d'y croire. Voilà.
Professeur Antoine, tous les Congolais qui sont au pays et à l'étranger, qui aimeraient aussi s'exprimer, donner leur point de vue, quels sont les canaux par lesquels ils peuvent passer pour vous faire parvenir leur point de vue?
Alors, il y a d'une part, il y a un site internet qui malheureusement posait problème hier, mais on m'a rassuré qu'aujourd'hui sera effective. Donc, sinon, on peut m'écrire sur EGSUC, enseignement supérieur, sur états généraux, l'enseignement supérieur et universitaire au Congo, EGSUC, en sigle, EGSUC2021@gmail.com. Ça, c'est le premier, mais on a 3 autres adresses qui vont être implémentées pour qu'on puisse nous écrire à distance. Certains le font déjà, mais ce n'est pas encore totalement optimal. On peut nous écrire en direct, alors je m'arrangerai pour vous passer l'adresse, on peut nous écrire directement. On peut nous envoyer des documents, des contributions, nous en avons déjà, par exemple de la diaspora en Belgique, en diaspora dans l'espace Schengen, nous avons déjà des contributions de la diaspora américaine, des compatriotes dans tous les coins du monde qui nous écrivent. Et ça, les enquêtes qui ont été faites, dont a parlé le procédé, ça le montre. Nous avons des avis qui sont donnés dans les 4 coins du monde. Et donc, ça permet de cheminer vers les éléments qui font consensus et surtout qui aident le pays à trouver des solutions à différents problèmes.
Bien, professeur Antoine Chimpi, coordonnateur des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire, merci, excellente journée.
Merci beaucoup Jordi, merci pour tout, à bientôt.
À bientôt. Professeur Michel Bissa, on va bientôt clôturer cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'ensemble par rapport à ces états généraux de l'enseignement supérieur universitaire?
Ce qu'on peut retenir dans l'ensemble, c'est le souci qui est de redresser notre système d'enseignement supérieur et universitaire, de le moderniser et de l'innover. Et que pour une des rares fois, une réforme a mobilisé largement les intelligences, les avis, les points de vue de tous les Congolais. Et lorsque je viens de suivre les interventions dans cette émission qui viennent de Kananga, de Lualaba, du Nord Kivu, de la Grande Orientale, je me rends compte effectivement que nous sommes en train d'aller vers la résilience. C'est-à-dire que les gens se sont largement exprimés. Mmh. Nous avons très bien noté les suggestions. Nous restons encore ouverts, comme vient de le dire le cordon, pour que tout celui qui a des observations, qui a des suggestions, continue de les transmettre.
Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Certains numéros peut-être vous en,
sans souci,
vous appelez.
Mon numéro est le 081 37
45
Voilà.
081 37 45 540.
Ok.
Bien, professeur Michel Bissa-Kiboul, membre de l'équipe de coordination des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire, merci.
Merci beaucoup.